Dans l'émission Psy et Spi, nous poursuivons notre échange avec Jean-François Noël, prêtre à Istres, Fos-sur-Mer et Saint-Mitre-les-Remparts, et aussi psychanalyste à Aix-en-Provence. Depuis quelques semaines, nous parlons de la vocation et de l'idéal. Nous allons voir aujourd'hui que cette vocation, elle se construit tout au long de notre vie.
Psy et Spi, avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Amaury.
Poursuivons notre échange. Nous avons parlé de vocation, d'idéal, de cet idéal qui nous met en mouvement et donc qui est nécessaire, qui est légitime, de cet idéal aussi qui peut nous amener à vivre des désillusions, des désidéalisations avec leur lot de souffrances. Jean-François, est-ce qu'on peut dire finalement que notre vie, c'est d'aller un petit peu d'idéal en idéal et que cette vocation, on n'y répond jamais d'une façon définitive une fois pour toutes. Notre vie est aussi constituée de réponses successives à des vocations qui émergent ou en tout cas qui s'affinent.
Voilà, alors reprenons le chemin de l'idéal. En fait, l'idéal, l'idéaliste, je l'ai dit au début, c'est l'enfant qui effectivement, comme une éponge, capte les expériences fondatrices de sa famille, de son groupe, etc. Un peu plus tard, on va avoir l'idéaliste plutôt adolescent, ou en tout cas jeune homme ou jeune femme. Et là, c'est vrai que l'idéal vient comme une rupture avec le monde qui l'entoure. C'est pas possible qu'on laisse crever la moitié de la planète, qu'on tue les animaux, et que voilà, etc., etc. Et donc l'idéaliste vient souvent dans le psychisme, vient comme un dénonciateur, un réveil, quoi. Je veux dire, c'est pour ça qu'ils sont toujours aussi c'est bien. Ce sont des éveilleurs. Alors, il faut pas qu'ils en restent là-dessus, parce que après, il va y avoir l'épreuve dans la deuxième partie de la vie entre 30 et 45 ans, l'épreuve de ses idéaux. La négociation va être difficile, mais restons-en d'abord au premier plan. Il y a un côté un peu lanceur d'alerte, quoi. Je veux dire, ils sont agaçants, ces jeunes adolescents qui veulent changer le monde. Ah, bah oui, nous aussi. Et d'ailleurs, c'est général, quand on a mon âge, on finirait par dire, ah, bah, moi aussi, j'étais idéaliste, mais ouais, vous verrez. Non, ça, je me refuse à le penser. Voilà, même parfois ça traverse ma tête. Je refuse à le penser parce que je me rappelle et je veux honorer l'idéal que j'avais quand j'étais et qui m'a fait rentrer dans la vie religieuse et la vie sacerdotale.
Là, avec ce que vous évoquez, ces idéaux justement qu'on peut avoir, alors quand on est adolescent, quand on est jeune pro, quand on fait le choix de devenir prêtre ou de se marier, ces idéaux, ils nous font poser des choix radicaux à un moment sur lesquels il est difficile de revenir. Quand on se marie, a priori, c'est pour la vie. Quand on devient prêtre ou religieux, quand on prononce des vœux, c'est aussi a priori pour la vie. Est-ce que malgré tout, au sein de ces idéaux auxquels on répond, parce qu'on a l'impression à ce moment de notre vie que c'est notre vocation, c'est notre appel, est-ce qu'au sein de ces réponses peuvent naître d'autres vocations qui vont s'articuler avec ce premier choix radical et que finalement notre vocation complète, elle se dessine tout au long de notre vie?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que au début, on va s'élancer et on va viser plus haut que soi-même, quoi. Je veux dire, on va, pour le dire en un mot, qu'on a les yeux plus grands que le ventre.
On
s'engagerait pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les engagements sont moins nombreux, parce que les gens, ils se hissent pas assez en dehors d'eux. Et on voit bien que ce soit l'engagement du mariage ou l'engagement même syndical, professionnel, etc. Il faut qu'on ait quand même une sorte de fierté ou d'orgueil qui pense qu'on va bon. Et puis vient le moment où on va s'apercevoir, et c'est là un moment à la fois très beau et très humiliant, c'est qu'on n'est pas à la hauteur de soi-même des idéaux. Avant d'accuser les autres qui ne sont pas dignes d'eux, etc., il va y avoir un moment d'interrogation, le regard de votre épouse ou de votre époux, de votre communauté ou de soi-même dans la glace ou dans son intimité, va montrer qu'on n'est pas du tout là autant des idéaux. Et vient un moment à la fois d'une déception et d'une chute intérieure. Cet élan et ce fait de tomber font partie de la vie. Je pense que c'est ça la résurrection. C'est-à-dire, c'est ça la passion et la résurrection. C'est ça vendredi saint et dimanche de la résurrection. Au fond, nous n'arrêtons pas de tomber, de nous replanter dans la terre et de renaître. Et de croire qu'on peut avoir une vie impeccable et sans défaut et invincible, ça fait partie d'un idéal qui serait effectivement despotique et trompeur. Et donc, le fait de... Alors, c'est pas toujours évident. de, c'est ce que j'appelle l'hémorragie narcissique, c'est-à-dire d'être à un moment donné entre 20 et 35 ans, là, on est par rapport à l'idéal, on a l'énergie, on a une vitalité, etc. Et on s'aperçoit que le monde ne suit pas ou que son épouse n'est pas à la hauteur de l'idéal qu'on pensait qu'elle avait, que devenant maman, elle a un peu changé, que d'ailleurs on change, mais tu n'es pas comme celui que j'ai épousé. Bon. Et tout ça, moi, je le prends jamais non plus comme un échec, mais comme une interrogation. Et qu'est-ce que je vais en faire de ça ? Mmh. Et comment je vais non pas casser, me venger ou maigrir, mais que je vais retrouver une autre. Moi, je pense toujours à ces arbres en Provence, voilà, qui malgré le mistral, le soleil, à quoi, ont inventé, ont fait des branches pas possibles, ont poussé dans tous les sens et sont quand même en train de continuer à vivre. Eh ben, nous avons sans arrêt comme les vignes, comme la vigne qu'on voit, que je traverse quand je viens sur Marseille, toutes ces vignes sinueuses qui à chaque fois refont des branches comme ça par intensité, par, eh bien je pense que notre vie elle est comme ça. Moi aussi j'ai des plaies, des bosses dans ma vie, et c'est d'en trouver une issue et de ne pas me replier sur moi-même qui me permet en tout cas de rester vivant.
On peut rechercher l'idéal, ou en tout cas ce qui nous a mis en mouvement, le rechercher, le redécouvrir autrement au sein de cet idéal auquel on a déjà répondu, même si aujourd'hui il nous déçoit, et j'allais dire le rechoisir. Il y a une part de volonté qui agit à ce moment-là.
Oui, et de le recreuser. En fait, je compare souvent les idéaux à des poupées russes, c'est-à-dire on n'a jamais... Il y a un idéal qui nous paraissait absolument indispensable et que je ne devais pas là. Et puis en fait, on s'aperçoit que il en cachait un autre qui est peut-être plus humble, plus ouvert. Et puis il en cache encore un autre. Et je dis ça parce que je suis quand même, j'ai un certain âge maintenant et je m'aperçois que les vieillards, ceux qui sont même plus âgés que moi, pour beaucoup, pour les plus beaux vieillards d'entre eux, il y a un retour aux vrais idéaux. Et que là, on trouve des belles vieillesses qui sont pas, alors, pas ceux qui se sont aigris justement, mais ceux qui ont réussi à renouer, à se défaire de l'attente narcissique que ces idéaux avaient pu faire grandir en eux et qui sont venus aux idéaux qui peuvent transmettre avec une vraie sagesse et une vraie sérénité.
Psy et Spi avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.
Ce que vous nous dites avec cette image des poupées russes, c'est de redécouvrir l'idéal caché dans l'enveloppe supérieure qui peut-être me déçoit ou me surprend parce que je ne m'y attendais pas. C'est une façon aussi d'encourager à tenir dans un engagement, même si l'idéal qu'on poursuit à un moment, il déçoit. Ce n'est pas pour ça que l'engagement qu'on a pris n'était pas le bon. C'est peut-être qu'on est appelé à redécouvrir un nouvel idéal dans cet engagement qu'on a déjà pris.
Bah oui, parce que, par exemple, je prends le cas que je ne connais pas, puisque c'est pas le mien, c'est pas mon engagement, mais ça pourrait marcher pour le cas d'un couple. L'idéal premier, c'est cette femme que j'ai épousée, elle partage avec moi l'envie de sauver la planète. Bon, il s'avère que on est parti faire de l'humanitaire, bon, c'était un peu dur avec le monde africain, puis on est revenu, etc., puis on a fait des enfants, puis les enfants nous ont amené autre chose, et puis on a eu des blessures, etc. Et puis un jour, on s'entend moins bien, parce que de fait, elle est fatigante, ou je suis fatigant, enfin, j'invente hein, des choses, c'est des choses qui n'existaient pas, évidemment. Mais et puis il y a un autre idéal qui était derrière, qui était la fidélité, qui revient. En fait, s'il y a une raison plus profonde que je ne connais pas et que je ne possède pas qui fait que je reste avec mon épouse, comme moi, mon sacerdoce, il y a des jours où je vous promets, je pense que d'ailleurs c'est réciproque, j'ai eu envie de partir et que j'ai eu envie de faire autre chose, quoi, voilà. Mmh. Et que c'est, d'autres idéaux viennent. Alors pourquoi t'as fait tout ça? Quel idéal de fidélité, de constance, par exemple? Moi, c'est par exemple, c'est mes idéaux actuels. La constance, une certaine cohérence de ma vie, alors que vraiment elle n'est pas très cohérente. Mais j'ai envie quand même qu'elle ait une certaine cohérence maintenant et que je partirai pas, au moins par respect de cette cohérence que je ne connais pas encore. Mais à chaque fois, ça me dépossède. Voilà. Et que je compare ce combat d'idéal comme le combat de Jacob dans la nuit. Je veux dire, c'est comme une étreinte, quoi. Je veux dire, on est serré au plus près par Dieu je ne vois pas la lumière de l'aurore qui va arriver, mais je veux la bénédiction qui dit que je ne me suis pas trompé de chemin, même si j'en vois pas le j'en vois pas l'issue. Et le combat de Jacob, pour moi, c'est le combat de l'intimité entre Dieu et soi qui ne cesse pas. Jacob, quand il arrive au Yediabok, il vient parce que d'abord il pète de trouille, et puis ensuite il a trompé Laban, et puis ensuite il a volé le droit d'aînesse à son frère. Enfin bon, il n'est pas extrêmement clair avec sa conscience. Donc il fait traverser tout le monde, il s'arrête au Yediabok, il est seul, enfin, il accepte d'être seul, et un ange, Dieu et sa propre conscience viennent combattre avec lui, et ni l'un ni l'autre n'emporte. Mais sauf que c'est... Et les tableaux le rendent très bien. C'est à la fois un combat, une étreinte, et il y a pas de victoire, mais il y a une étreinte, ouais, une étreinte. Et je pense que Dieu et les idéaux qu'on a sont de cet ordre-là.
Fondamentalement, ça nous appelle à faire confiance. Finalement, cette vie où on va d'idéaux en désidéalisation et où on rechoisit des idéaux, où on essaye d'être fidèle à des idéaux qu'on s'était mis sans vraiment les appréhender, ça demande de faire confiance à aux choix qu'on a posés, de faire confiance peut-être à des personnes qui autour de nous nous encouragent dans ces choix-là. Eux, ils voient une cohérence parfois que nous, on ne voit pas. Et puis, au bout du bout, de faire confiance à Dieu en se disant, en fait, je fais un acte de foi et je crois qu'à travers tout ce chemin, Dieu a un plan d'amour pour moi.
Oui, voilà, c'est ça. Vous placez justement tout le problème de la formation, de l'enseignement qui ne cesse jamais. C'est-à-dire qu'on ne veut pas en continuer à apprendre. On va se replier sur des certitudes et des croyances qui vont se racornir et devenir nos forteresses imprenables. Et que vous avez raison de placer. Et que moi, j'aime lire et apprendre parce que à chaque fois, je m'assouplis. Parce que sinon, mon intelligence ou mes certitudes ou mes peurs me rendent rigide et me font, comme le chêne et le roseau, vont me faire casser, quoi. Il faut que j'apprenne cette souplesse. Et c'est vrai que c'est par l'étude du texte, l'étude de la parole, la pratique, enfin, en tout cas, dans mon domaine, c'est ça, où je me remets pas en cause, mais je me dis toujours, il y a encore une chose que tu ne sais pas encore et que tu vas encore apprendre. Et le fait de se mettre dans une position d'apprenti et de disciple est la meilleure position pour ne pas se crisper sur ses idéaux, mais les faire des idéaux des vrais instruments de croissance et non pas des obligations de réussite.
Merci beaucoup, Jean-François Noël, de nous avoir éclairé sur tous ces sujets de vocation et d'idéal, en espérant que ça puisse aider tous ceux qui auront fait ce parcours avec nous de mieux découvrir les idéaux qui les animent et de mieux répondre à leur vocation, vocation avec un S. À bientôt.